Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Réforme gouvernance du secteur de la sécurité, les enjeux et défis de la mise en œuvre. C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, dit CAF, depuis sa création en 2000, contribue à la paix et soutient le développement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques au Mali. L'un des objectifs clés de la structure est d'informer sur les questions de gouvernance et des réformes du secteur de la sécurité. Le projet a contribué à améliorer les capacités des organisations de la société civile et des médias à traiter des sujets liés au secteur de la sécurité et à sa gouvernance. Qu'est-ce que la réforme du secteur de la sécurité? Comment impliquer les jeunes et les femmes au processus? On en discute ce soir avec nos invités qui sont Aminata Agali Yatara, elle est observatrice. Bonsoir.
Bonsoir Mariam.
Notre second invité est Dr Ilo Alaïdial, il est analyste sécuritaire. Bienvenue.
Merci.
Le troisième invité de ce soir n'est plus à présenter, c'est M. Massiré Diop, il est membre du réseau média de DICAF. Je suis Mariam Koulibaly. Je rappelle que ce débat est une émission, est un partenariat entre le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève DICAF et Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, ce débat sera composé de trois parties. En premier lieu, nous allons parler de réforme du secteur de la sécurité. Quelle pertinence pour le Mali? Et pour répondre à la première question, nous allons nous adresser à M. Massiré Diop, à savoir qu'est-ce que la réforme du secteur de la sécurité?
Bon, en un mot, bonsoir d'abord. Je pense que je n'ai pas salué. La réforme du secteur de la sécurité, en fait, c'est tout ce qui permet un peu de mieux réorganiser cet outil assez important. Et puis aussi, de l'autre côté, de faire participer davantage les populations à ce processus-là. Parce que c'est un processus. Et lorsqu'on parle de réforme, ça veut dire que ce sont des mesures, des décisions et tout ça qui sont prises dans le but d'améliorer. Et ça entre dans ce sens, dans ce cadre-là, parce que c'est un processus qui est encore en train de suivre son cours. C'est un processus, on en parlait déjà depuis quelques années, mais sauf que ce sont ces dernières années que de plus en plus on commence à en faire un domaine assez important pour améliorer un peu cet outil assez important et pour aussi une meilleure justice plus équitable entre les citoyens.
Vous avez parlé d'amélioration, c'est le mot que je retiens. Est-ce qu'il y avait des failles avant?
C'est sûr, vous savez, comme toute œuvre humaine, elle ne peut jamais être parfaite. Tout le temps, il faut avoir... c'est un processus qui suit son cours. Certainement qu'il y avait des dispositions qui étaient prises qui n'étaient pas très adaptées. Aujourd'hui, nous sommes en face de menaces de type nouveau. Et cela demande ce qu'on appelle une sorte d'adaptation. C'est raison pour laquelle on a utilisé ce terme qui est réforme du secteur de la sécurité.
Alors, docteur Dial, en quoi c'est important pour un pays de réformer son secteur de la sécurité, pardon?
Merci beaucoup pour la question. Et en plus de tout ce que Massiré vient de dire, ce qui est important pour un pays pour enclencher une réforme du secteur de la sécurité, c'est que actuellement, surtout depuis que le Mali a connu la crise multidimensionnelle qui a éclaté dans le Sahel et avec l'accord issu du processus d'Alger de 2015, on s'est rendu compte que la sécurité était un tout. Elle devait être prise de manière holistique. On devait dépasser le seul cadre des armes et prendre en compte les autres domaines de la vie qui concernent les êtres humains, les citoyens. Donc ce processus de réforme n'est pas seulement l'apanage du Mali. C'est un système qui a été lancé au niveau des Nations Unies et il y a le cadre d'orientation aussi de l'Union africaine. Donc c'est un système de réforme qui se trouve aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde. C'est à l'ère du temps, comme le dit Massiré, on fait face à des menaces de nouveaux types et la gouvernance, le bien-être des populations en fait aussi partie. Donc c'est pourquoi la réforme est pertinente puisqu'il faut prendre la sécurité des citoyens de façon holistique, de façon à couvrir tous leurs besoins dans la vie courante.
Sur le plan sécuritaire, quels sont les besoins notamment des femmes et des jeunes, Aminata?
Rebonsoir, Mariam.
Alors déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Dial et Massiré ont dit. Quand on parle de la réforme du secteur de la sécurité, les gens pensent plus à la sécurité, entre guillemets, l'armée. Mais ça va au-delà de ça, comme ils l'ont dit. Il faudra désormais que les gens intègrent que quand on parle du secteur de la sécurité, ça englobe un tout. Il y a l'environnement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'état de droit. Et aussi que les citoyens se sentent protégés et concernés, mais tout en étant dans leurs droits. Donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, je pense que les femmes jouent ou peuvent jouer un rôle essentiel dans ce processus-là, tout simplement parce que déjà, la femme est un socle, on va dire, de la famille, un pilier dans la société. Et quand la femme ou les jeunes sont impliqués dans une problématique, ils essayent de trouver des solutions, ils essayent d'aller plus loin que ce qu'on prévoit en général. Et par là même, ça m'amène à faire à revenir, disons, sur l'exemple du Libéria et de la Guinée dans les années 2000. Si j'ai bonne mémoire, je pense que ce sont les femmes qui se sont mobilisées justement pour mettre fin au conflit qui les opposait, si ça ne restait qu'à l'état où c'est uniquement les hommes qui étaient devant, je ne pense pas qu'ils auraient pu surmonter ce conflit. Donc c'est pour dire à quel point l'inclusivité est un point essentiel quand on parle de sécurité, quand les gens se sentent en confiance, quand ils se sentent impliqués dans la chose, ils y vont vraiment de manière naturelle, parce que la femme, pour elle, quand il faut penser, elle ne pense pas qu'à sa petite personne, elle pense à ses enfants, elle pense à son mari, elle pense à ses frères. Et c'est pourquoi l'inclusivité est très importante.
Alors, Massiré, pour réformer son secteur de la sécurité, comment est-ce que le Mali a procédé?
Bon, je pense que, comme Dial l'a dit tout à l'heure, hein, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas qu'on l'occulte. Hein, c'est à partir réellement des problèmes que nous avons connus en 2012 qu'il y a eu cette prise de conscience qu'il faut aller vers des réformes du secteur de la sécurité. Sinon, c'est sûr qu'on en parlait dans les années 90 et même avant, hein, mais c'est à partir véritablement de 2012, avec la crise multidimensionnelle, qu'on a pris conscience qu'il fallait vraiment aller vers des réformes, parce qu'on a découvert qu'il y avait des failles dans le système. Pour en venir à votre question proprement dite, il y a beaucoup de textes pour réformer ce secteur. Parce qu'il faut commencer d'abord par le B.A.B.A. Et le B.A.B.A., c'est quoi? C'est de revoir les textes qui régissent un peu tout ce qui est sécurité et tout ce qui est défense. Une fois que ces textes sont révisés, et maintenant, il faut aller vers une application, vers des décrets et tout ça qui permettront de mieux cadrer ces interventions-là. Donc, il y a d'abord eu une stratégie nationale. Ensuite, il y a eu une politique même nationale. Et il y a également des structures, hein, des structures qui ont été créées. Et il y a le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Et il y a également même le commissariat pour la réforme du secteur de la sécurité. Donc, toutes ces batteries de mesures visent un peu à organiser, cet outil et à revoir un peu les failles pour les corriger et de plus en plus inclure également les populations. Parce que lorsqu'on parle de certaines mesures, par exemple, comme la police de proximité, la police territoriale et ainsi de suite, tout cela, ça montre le besoin d'impliquer davantage la population, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va prendre des dispositions, on va prendre des mesures sans les principaux concernés. Hein, les principaux concernés, ce sont les citoyens. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, le secteur de la sécurité aujourd'hui, ça va au-delà de la question des armes. C'est une question holistique. Donc l'être humain doit être au centre de toutes les décisions qui sont prises. Donc c'est la raison pour laquelle les discussions sont en cours. Des mesures ont été prises, des décisions également. Maintenant, il faut voir, parce qu'on vient de loin. on vient de loin et les conséquences de la crise de 2012 ne sont toujours pas complètement terminées. Donc c'est la raison pour laquelle le processus suit encore son cours.
Le processus suit son cours. Alors, Monsieur Dial, qu'est-ce que vous pensez de ce processus enclenché par les autorités? Est-ce que, selon vous, c'est la bonne démarche?
Oui, bien sûr. Le processus qui est enclenché a pris du temps et on est en train de faire les réformes nécessaires. Actuellement même, le 4 juin tout près, il y a eu 3 décrets qui ont été pris. Le premier décret qui a transformé le Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité en comité d'orientation. Parce que vu que le Mali est sorti de l'accord d'Alger, donc le groupe signataire qui était présent dans ce Conseil national ont quitté. Donc il y a eu un nouveau comité d'orientation pour voir comment est-ce qu'on allait réorganiser ça. Ensuite, on a mis une autre commission, la commission DDR a été mise en place par le décret suivant. Le premier était le décret 00327, le second est le 00328 qui met en place la commission DDR, et le 0329 met en place la commission nationale d'intégration. Donc c'est pour vous dire que c'est un processus de longue haleine qui est basé, comme il l'a dit, sur la stratégie nationale qui avait un plan d'action 2022-2024. Donc en décembre, ce plan d'action doit finir. Et sûrement, il va y avoir un nouveau plan d'action sur la période 2025-2027. Mais on peut d'ores et déjà dire que les processus de réforme au niveau national, surtout dans les pays qui sont encore en conflit, prennent nécessairement du temps. Et c'est pourquoi tout l'effort que le gouvernement a déployé dans ce sens, il n'est pas parfait, mais il est à saluer. Parce que sans cet effort-là, sans cette vision et cette présence d'esprit, la réforme n'aurait même pas débuté. Mais actuellement, on a un commissariat qui est vraiment très, très dynamique. Et dans certaines communes et les régions, certaines régions du Mali, pas toutes, on a mis en place les comités consultatifs de sécurité au niveau régional et au niveau des communes. Donc ça veut dire que la réforme, le processus est tellement bien ficelé qu'on prend en compte les besoins de sécurité des populations depuis le niveau de la commune. Ça remonte à la région, vous n'êtes pas sans savoir que la collectivité de cercle a été supprimée. Ça quitte la commune, ça va au niveau de la région, ça quitte la région, ça vient au niveau national et ça va jusqu'au niveau du comité de la commission d'orientation où le ministre de la Sécurité est le président. Avec lui, il y a beaucoup d'autres ministres qui sont concernés et toutes les forces de défense et de sécurité du Mali. Donc le processus, il est lancé, il suit son cours, il y a des hauts et des bas. Voilà, mais il est quand même à saluer.
Alors Aminata, est-ce que vous pensez que c'est important de communiquer autour de cette réforme du secteur de la sécurité au Mali?
Absolument, Mariam. En tant que journaliste, on ne demande que ça. Parce qu'au quotidien, par exemple, dans notre journal Mali Tribune, on s'intéresse beaucoup aux thématiques liées à la sécurité, à la réforme du secteur de la sécurité. On a d'ailleurs fait des hors-séries dans ce sens avec DICAF. Mais qu'à cela ne tienne, on ressent toujours des blocages, des problèmes au quotidien parce qu'avoir des sources, c'est compliqué. Même si les langues se délient petit à petit, ce n'est toujours pas effectif. Donc ça reste quand même un souci majeur parce que la communication, elle est importante. Tout à l'heure, je parlais des citoyens. Peu importe les réformes qu'on mettra en place, tant que les citoyens ne se sentent pas en confiance vis-à-vis de ces personnes qui sont censées être là pour eux en cas de besoin, pour une femme, par exemple, qui est victime de viol ou de violence de tout genre que ce soit, il faudrait d'abord qu'elle se sente en confiance par rapport à la personne à qui elle est censée s'adresser. Et si cette confiance déjà est minée par la peur de se dire « mais celui vers qui je vais, est-ce qu'il n'est pas pire que celui que je viens de subir ?» Voilà, donc finalement, ça devient un problème. Il faut que cette confiance-là s'établisse petit à petit. Il y a du chemin qui est fait, on va le reconnaître. Mais il reste encore beaucoup à faire et on espère qu'ils vont communiquer davantage sur toutes ces choses-là qui nous intéressent de près en tant que citoyens vivant au Mali.
La communication autour du secteur, de la réforme du secteur de la sécurité, est-ce que vous pensez, Monsieur Diop, que c'est fait à hauteur de souhait? Est-ce que les populations sont assez informées par rapport à cette réforme?
Il y a quand même des avancées, il y a des progrès, mais comme elle l'a dit, hein, beaucoup reste à faire, parce que jusqu'à présent, et Dial est en mesure de le confirmer pour avoir certainement participé à des études dans ce sens et des recherches, vous avez encore des populations qui ne comprennent pas très bien cette notion. Vous savez, la crise multidimensionnelle que le Mali a connu encore une fois était tellement profonde que la confiance s'est effritée entre les citoyens et entre les gouvernants et les gouvernés. Est-ce que vous voyez? Donc, pour reconstruire tout cela, pour remettre en confiance les populations, en eux-mêmes d'abord et en leurs institutions, il va falloir communiquer. Donc la communication est centrale dans ce travail que nous sommes en train de faire, sinon ça n'aura aucun sens. Est-ce que vous voyez, il y a des efforts qui sont faits parce que de plus en plus, il y a des ateliers, il y a, comment on appelle ça encore, des séances de renforcement de capacité. Tout ça, c'est bénéfique. Mais il faut encore en faire davantage parce qu'aujourd'hui, je pense que, comme elle l'a dit, hein, les langues sont en train de se délier parce qu'il y a... Il faut saluer DECAF, également d'autres partenaires. Et également, nous avons vu que c'était pertinent de lancer un réseau des journalistes pour la réforme du secteur de la sécurité, justement pour aider vraiment à mieux communiquer sur ces aspects pour que les populations cernent mieux cette situation-là. Donc tout ça montre un peu qu'il y a une prise de conscience, mais encore une fois, beaucoup reste à faire. Parce que jusqu'à présent, ce sont des initiatives... Qui sont encore timides. Et très souvent, c'est surtout la société civile, des particuliers qui essayent davantage de faire bouger le cocotier. Mais il faut davantage également que l'État et ses différents démembrements qui ont des moyens beaucoup plus consistants se mettent également à la tâche ou bien soutiennent ces organisations de la société civile. Je parlais du réseau, je parlais de l'Alliance également, qui fait un travail extraordinaire. Donc tout ça mis ensemble, moi je pense qu'on pourra arriver au résultat souhaité.
Alors, M. Dial, quels sont les changements attendus sur la sécurité, la gouvernance et les relations entre les forces de défense de sécurité et la population?
Je vous remercie pour cette question parce que la question, comme vous l'avez posée, en suivant les trois étapes, ce sont ces trois étapes sur lesquelles même la stratégie malienne est assise. Ce sont les piliers de la stratégie. Il manque un dernier pilier qui est le fait que le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité puisse mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action. Donc, il y a son nombre de quatre, je récapitule. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Il faut renforcer les capacités de l'État à répondre aux besoins des populations en matière de sécurité, de défense, mais aussi de justice. Et il faut restaurer la confiance entre les populations, ça rejoint votre question de confiance, restaurer la confiance entre les populations et les forces de défense, de sécurité et aussi de justice. Donc voilà les quatre piliers sur lesquels la réforme est bâtie. Ça, c'est la stratégie. Donc, pour revenir à votre question, c'est la façon dont on doit faire.
Le changement attendu.
Vraiment, il faut saluer l'effort que l'État a mis en place. Parce que mettre en place même cette stratégie et aussi faire en sorte que d'autres acteurs, comme la société civile et les partenaires techniques et financiers, puissent y participer, fait que l'État a fait montre d'une volonté d'ouverture. Elle a fait vraiment une volonté large d'ouverture et c'est ce qui fait que les actions qui ont été mises en place jusqu'à présent, dans le plan d'action, par exemple, je peux vous dire qu'il y a 40 activités qui sont prévues. Nous avons fait une mini-évaluation. Il y a une activité qui est réalisée entièrement. Il y a 28 qui sont en cours et 11 qui n'ont pas encore démarré. Donc sur 40, s'il n'y a que 11 qui n'ont pas démarré, on peut dire que plus de 50% a été fait. Donc ce sont des innovations qu'il faut dire et c'est vraiment à saluer. Mais l'attente la plus importante, c'est qu'il faut que l'État continue dans ce sens, à beaucoup plus s'ouvrir, à beaucoup plus impliquer d'autres acteurs, les acteurs de la société civile, les journalistes, les chercheurs, toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par les questions de sécurité. Et pourquoi pas nos mamans dans les villages, les bergers qui sont au pâturage, si tout le monde parvient à s'intéresser à la réforme, elle aura beaucoup de succès.
Alors, voilà. Vous avez déjà entamé la seconde partie de ce débat qui portait sur la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Vous avez effleuré quelques parties, notamment les plans d'action et le bilan. Maintenant, nous allons chercher à savoir, Aminata, comment évaluez-vous la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie? Et il a déjà abordé la question du bilan. On va zapper cela. Comment est-ce que vous évaluez les activités, la mise en œuvre du plan d'action?
En termes d'évaluation, Dial a déjà parlé de l'essentiel en substance tout à l'heure dans son intervention. Il faut reconnaître une fois de plus les progrès, les avancées ou tout simplement la volonté politique qui est déjà salutaire. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'il va vraiment falloir revoir en mettant l'accent sur la confiance une fois de plus, parce que la question de confiance, pour moi, constitue l'essence de ce problème. On ne peut faire quoi que ce soit avec qui que ce soit s'il n'y a pas une confiance qui est préétablie ou qui s'établit au fil du temps. Donc, mettre en confiance les populations, notamment les femmes et les jeunes surtout, parce qu'ils constituent quand même une frange de la population qui est à considérer absolument. Et donc, cela passe notamment par la participation. On a parlé de la société civile tout à l'heure, des ONG également qui sont impliquées dans la réforme du secteur de la sécurité, qui font des actions, qui posent vraiment des actes louables qu'il va falloir continuer, en tout cas, s'ils ont les moyens, parce que tout le monde sait que c'est vraiment pas évident ces temps-ci en termes de finances, mais c'est quand même des avancées qu'il faut saluer. Mais je reviens et je maintiens toujours le point d'honneur sur la problématique de la confiance à ces niveaux, notamment chez les femmes et les jeunes.
D'accord, monsieur, merci et Aminata. Et monsieur Diop, quels sont les défis auxquels la mise en œuvre de cette stratégie et des plans d'action est confrontée?
Bon, les défis, pratiquement, on les a également effleurés. Hein, parce que
vous êtes en avance sur le débat, apparemment. Ok, allez-y.
Bon, les véritables défis, c'est d'abord le défi de la communication. Et c'est central à ce niveau. Et ça rejoint un peu également la sensibilisation. Tout ça, ce sont des actions qui doivent véritablement être mises en œuvre et vulgarisées aussi. Parce que ces textes, c'est très bien. Ce sont des avancées vraiment spectaculaires, surtout par rapport à un pays qui tente de sortir tant bien que mal de la crise. Avoir vraiment des textes et des structures chargées de les mettre en œuvre, c'est déjà à plus de 50% du problème qui est réglé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout de délocaliser cela davantage, de démultiplier cela davantage, que les populations se l'approprient. Parce que c'est ça le plus grand défi, l'appropriation. Le plus grand défi réside certainement autour de l'appropriation. Parce que beaucoup de choses ont été faites, sûrement. Certaines choses restent à faire, mais le défi de l'appropriation, il est véritablement central. Parce que sans une implication... Aujourd'hui, c'est ça. Les gens ont acheté des armes, les gens ont acheté des ordinateurs, les gens ont acheté tout ce qu'il faut. Mais en fait, tout cela pour les faire tourner, c'est l'humain. Le citoyen lambda, tant que lui n'est pas impliqué... La stratégie, toutes ces batteries de mesures et ces moyens qui ont été déboursés resteront vraiment du papier. Ça sera vraiment comme de marbre. Il n'y aura pas d'effet. Donc, véritablement, ce sont ces défis qui devront être mis en œuvre. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. La communication, la sensibilisation, la vulgarisation, la démultiplication et, comme je l'ai dit, l'appropriation.
Alors,
voilà comment on pourra relever le défi.
Après tout ce que M. Diop vient de mentionner, qu'est-ce que vous ajoutez au fait que, la population doit réellement s'approprier ce plan d'action et cette stratégie? Parce que Mastire a effleuré certaines parties, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment faire adhérer ces textes-là par les populations?
Merci beaucoup. Je pense que pour l'appropriation, il s'agit même pas seulement des seules populations. Mm-hmm. L'appropriation est à faire même au niveau de certains dirigeants. Parce que l'évaluation que nous avons menée, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de certains dirigeants, au niveau de certains gouvernorats et au niveau de certaines préfectures, mm-hmm. il y a les représentants de l'État même qui ne comprennent pas très bien le système. Pas parce qu'il y a une mauvaise volonté ou autre chose, mais c'est dû au système en fait, à lui-même. Je vous donne un exemple très simple. Chez tous les gouverneurs, vous avez une commission de sécurité qui se réunit chaque semaine. Ça existait bien avant la réforme. La réforme demande aussi à ce qu'il y ait un comité consultatif de sécurité. Vous allez voir presque, c'est à peu près les mêmes membres. Sauf que dans le comité consultatif, il y a la société civile qui y est adjointe. Donc la confusion arrive très souvent. Souvent, les gens font la confusion entre ces deux commissions, alors qu'elles ne sont pas pareilles. Donc ça, c'est des défis institutionnels qui peuvent être réglés au niveau de l'État, par exemple, en fusionnant. Si on fusionne les deux, même si ces commissions-là vont travailler dans une réunion en deux temps, en un premier temps, entre seulement les membres institutionnels, et en un second temps, ouvert aux autres membres de la société civile, c'est une solution, une proposition. Donc l'appropriation n'est pas seulement au niveau des populations, mais aussi même au niveau de certains gouvernants. Premier point. Deuxième point, au niveau de la population. Une population qui est en prise à toutes les difficultés que nous connaissons actuellement au Mali, son appropriation ne peut se faire que par deux moyens. Le premier moyen, selon auquel moi je pensais, la transcription et la traduction littérale de tous ces textes-là en langue locale, et utiliser les canaux comme les radios, Radio Studio Tamani, les autres radios, pour qu'il y ait une diffusion de masse qui est vraiment très large. Premier point. Second point, c'est dans nos unités d'enseignement. Même au niveau du premier cycle, au niveau du second cycle, du lycée, de l'université, il faut en parler. Il faut en parler, il faut que les gens soient vraiment informés. Et là aussi, la stratégie a prévu ça. Parce que la stratégie a prévu ce que le ministère de la communication utilise ces canaux pour amplifier les données de la réforme. Mais malheureusement, comme Mazel l'a dit, le problème financier auquel le pays est confronté actuellement fait que la capacité en matière de ressources est assez réduite. Bon, c'est une affaire de sécurité. La sécurité, tout le monde sait que ça demande des moyens. Mm-hmm. Donc, c'est ça le problème, quoi. Voilà.
Alors, Aminata, votre co-débatteur a parlé de la barrière linguistique. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que si ces documents, ces plans d'action sont transcrits, traduits dans nos langues, ça permettrait aux femmes et aux jeunes de s'impliquer davantage et d'adhérer à ces plans d'action?
Ah, peut-être oui, mais je dirais non. Mm-hmm. Non, en ce sens que même si ces documents sont traduits dans toutes les langues nationales du Mali, est-ce que réellement les personnes à qui elles seront adressées sauront lire dans leur langue qu'elles parlent, dans leur langue maternelle? J'en doute fort parce que nous parlons beaucoup Bambara, Peul, Sorel, Tamashek et tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas lire dans nos langues. Peut-être si c'est en audio, comme il y a WhatsApp, les réseaux sociaux pourront peut-être contribuer à ces niveaux, faire des audios, des messages de sensibilisation, comme Massiré l'a dit, qui pourront peut-être aboutir. Mais si il faille seulement traduire les documents existants déjà, je pense que ça sera gardé une fois de plus, comme beaucoup d'autres documents dans les archives, parce que ça n'ira nulle part, ça ne sera peut-être pas lu, ni su même de la population qui est censée s'approprier justement. Peut-être c'est à ce niveau que revient encore le problème de la communication, parce que Djal, une fois, lors d'une des sessions à laquelle on a participé ensemble, il l'a dit lors de sa présentation que le problème de la communication, ils en sont conscients, mais ils ne savent pas réellement quel acte poser pour débloquer ce problème de communication. Et je me souviens lui avoir dit, chacun son métier. Si vous, c'est de faire les études, laissez aux professionnels de l'information ou de la communication se charger de ce volet. Donc peut-être penser à approcher des structures de consultation dans ce sens pour essayer de réfléchir purement et simplement ou profondément même à qu'est-ce qui pourrait être apporté comme solution à cette barrière-là qui est posée partout par rapport à ces documents. Donc, une fois de plus, on revient, on se retrouve toujours au même point, la communication, la sensibilisation, la langue dans laquelle les messages sont véhiculés. Donc, ces messages-là, qu'ils profitent des canaux traditionnels, tels que, des griots qui se promènent de quartier en quartier, puisque ça commence au niveau communal, pour sensibiliser, pour informer, de rentrer de famille, on ne sait jamais, même si c'est une seule personne qui est sensibilisée ou qui est informée à travers une action de communication, c'est un plus parce que toute action qu'on pose, on espère avoir gain de cause. Et si une seule personne a pu bénéficier positivement de cette action, ce n'est qu'à saluer en fait.
Alors je rappelle que ce débat est enregistré dans le cadre d'un partenariat entre le studio Tamani et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, DICAF. Alors Monsieur Diop, depuis le début du processus de la réforme du secteur de la sécurité, sur le terrain, est-ce que vous avez constaté une amélioration de la situation sécuritaire du pays?
Vous savez, amélioration de la situation sécuritaire, moi je pense que c'est un peu dit, c'est un peu trop dire. Voilà, l'impact, oui. D'accord, les effets, d'accord, la compréhension, d'accord. Oui. Mais vous savez, elle a dit quelque chose de très important par rapport à la langue. Hein? C'est vrai, la barrière linguistique, c'est une réalité. Mais je vous dis que en 2015, nous avions participé à cette mission qu'on appelait Azalaï Kaikidal, qui servait à vulgariser l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger s'était traduit dans toutes les langues. Mais aujourd'hui encore, vous demandez aux gens, ils vous diront que... Et ça ne s'arrête pas qu'aux citoyens lambda, même ceux qui sont dans les institutions. Il en a parlé. Vous savez, c'est un problème. L'appropriation, là, ça nous concerne tous. Et quand on parle de problème holistique, qu'il faut une approche holistique, il ne faut pas comprendre ça que dans le sens où... Non, parce que les départements ministériels, c'est important. Certainement, le ministère de la Réconciliation a un rôle primordial, un rôle central à jouer dans ce sens. Mais l'éducation également, la communication, ministère des Finances, ministère de l'Emploi, ministère de la Fonction publique, ça doit aller dans tous les sens. Il faut réellement qu'on sente que c'est un mouvement d'ensemble. Pas qu'une structure, pas qu'un citoyen ou bien pas qu'une organisation, c'est tout le monde qui doit aller vers ça. Et pour cela, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est d'abord tout ce qui existe comme batterie, les vulgariser davantage et faire en sorte que les populations adhèrent. C'est ça le plus difficile aujourd'hui, l'adhésion de la population. Parce que vous avez des zones qui sont toujours sous tension et les gens cherchent autre chose. Ils sont en insécurité quotidienne. Ce n'est pas que les armes, mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nombre de populations qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, à s'instruire correctement, à accéder à la justice correctement, à se soigner correctement? Il y a déjà les béaba. Donc c'est tout cela la sécurité aujourd'hui. Pas que la sécurité, il faut renforcer le côté... c'est important d'avoir un outil de défense très performant qui soit pratiquement le meilleur de tout le monde. C'est extrêmement important. Mais il faut également avoir des populations quand même instruites, des populations bien portantes, des populations quand même qui savent distinguer le vrai du faux. Et puis c'est pour cela que, surtout qu'aujourd'hui, elle a parlé d'un aspect très important, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, vous savez que ça, c'est aussi un vecteur qui diffuse une information souvent mauvaise. Des mauvaises informations. Et ça, réellement, il faut avoir des outils pour lutter contre ça et faire adhérer. Il a parlé d'un aspect très qui est l'éducation. L'éducation, ça doit commencer à la base. Déjà la maison, ensuite les écoles, ensuite... Voilà, donc c'est un mouvement d'ensemble. Ça ne sert à rien de pouvoir mettre ça à la... C'est-à-dire que ça soit l'apanage d'une structure bien déterminée. Il faut que tout aille ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des moyens pose c'est un autre défi. Mais tout cela, avec la compréhension, et le reste pourra venir petit à petit.
Le reste pourra venir petit à petit et il faut un mouvement d'ensemble. Est-ce que vous avez constaté ce mouvement d'ensemble-là sur le terrain, malgré les difficultés évoquées par vos collègues?
Oui, je vous donne deux exemples à titre d'illustration. À Bamako, vous avez remarqué, il y a une loi qui empêche, bon, c'est pas une loi, c'est un décret qui empêche la vente et l'utilisation des chichas. C'est grâce à la réforme du secteur de la sécurité. C'est le comité consultatif du gouvernorat de Bamako qui a remarqué cela, qui a vu que c'est un problème au niveau de la commune 3 et de la commune 4, où les mairies ont fait remonter l'information. Ils ont pris une décision dans ce sens. Et aujourd'hui, qui n'est pas content de ça,
hein? Peut-être les consommateurs.
Voilà, peut-être seulement les consommateurs. Voilà. Oui. Et vous remarquez aussi que à la montée et à la descente des deux ponts, du pont des Martyrs, pont Fad et même le troisième pont, Avant, il y avait toujours des barrières de policiers. Après, ça avait disparu. Mais maintenant, c'est encore revenu de nouveau. C'est grâce au comité consultatif de sécurité de du district de Bamako. Oui. Le gouvernorat de Kayes aussi. Kita qui est devenu une nouvelle région. Pour avoir été là-bas en supervision aussi, j'ai pu constater des visus. Il y avait beaucoup de services qui ne marchaient pas. Par exemple, l'ambulance. L'ambulance qui était là-bas, au niveau de la protection civile, avait des problèmes. Mais le gouverneur, avec sa pédagogie, a réussi à faire en sorte que les populations elles-mêmes contribuent à ce que leurs forces de défense et de sécurité aient les moyens pour faire la patrouille, ou bien pour faire les systèmes de référence, les femmes qui ont besoin de rapprocher rapidement les centres de référence. Donc ça, ce sont des actions du quotidien qui marchent, qu'on a vu, qu'on voit les visus. Donc tout le monde sait, par exemple, à Bamako que ça existe, mais on ne sait pas que ça vient du comité consultatif de sécurité. Donc la matière sécuritaire aussi, souvent, on n'a pas besoin forcément de savoir qui est derrière. Une fois que l'effet est là, c'est déjà bien. Mais le vrai problème, comme chacun d'entre nous ici nous l'a dit, la communication est un problème très, très important auquel l'État s'attelle. Le fait que le chef d'État-major fasse des communications régulières sur l'état même de la sécurité dans toutes les régions, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à la réforme. Donc nous voyons beaucoup de choses, nous ne savons pas que ça vient de la réforme. Donc il faut une communication intelligente qui est l'affaire des professionnels, certes, mais il le faut, on en a besoin. Pour l'instant, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Les effets sont là et franchement, si on s'entraide tous pour aider les dirigeants, il y a de fortes chances que ça puisse aller. Pour finir en conclusion, le problème de l'adhésion des populations, c'est une question d'intérêt. Il faut que les populations aient un intérêt à y adhérer. Et c'est ça l'idée qui est visée derrière les comités consultatifs locaux, au niveau des communes. Parce qu'au niveau communal, toute fêtière qui est au niveau des communes, qui est enregistrée au niveau de la mairie, est invitée à venir participer au comité. Donc c'est ça, c'est de là que l'intérêt va naître et puis il y aura une éclosion et une compréhension des communautés et automatiquement il y aura l'adhésion.
Alors, nous arrivons à la troisième partie de ce débat qui est solution pour surmonter les difficultés. Alors, Aminata, on a parlé aussi de certaines difficultés, notamment financières, les barrières linguistiques rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous avez parlé aussi de quelques solutions comme la communication et autres moyens à mettre en œuvre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour faire adhérer et pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie?
Alors, vous direz... Certainement que parce que je suis une femme que je reviens toujours sur ça. Mais comme piste de solution ou comme proposition, c'est toujours cette question d'inclusivité. Mettre les jeunes et les femmes en avant ou tout simplement les impliquer dans toutes les actions à tous les niveaux. C'est une solution en ce sens que, par exemple, au niveau des ONG, il y a des groupements de femmes ou de jeunes. Au niveau également de la société civile, c'est cette frange de la population qui est à la tête, on va dire, de beaucoup d'actions, de beaucoup de choses qui font bouger justement la réforme du secteur de la sécurité. Donc à cela, il faudra peut-être ajouter la redevabilité. Parce que ça a également son sens. Il faut qu'il y ait également une certaine transparence. Parce que tout à l'heure, il a parlé de ce qu'il y a comme constat sur le terrain, mais ça ne vient pas du néant. Dans toute chose dans laquelle nous nous impliquons un jour dans cette vie, il faut qu'on y trouve son intérêt. On peut être animé de plusieurs façons, tout n'est pas qu'argent, mais il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait quelque chose qui motive la personne à adhérer ou à faire partie d'un processus de développement. Parce que si on parle du niveau communal, les enfants de la même commune, ils savent qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Donc, en se mettant ensemble, en ayant la même conviction que quelque part, nous pouvons essayer d'apporter un changement par rapport à tel ou tel problème, que ce soit sanitaire, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur d'autres plans. Mais en tout cas, en fin de compte, ils vont s'impliquer et ils vont certainement faire preuve de beaucoup de choses avec le temps. Ça vient petit à petit, on le dit, beaucoup de choses ont été faits, mais une fois de plus, il y a du chemin à faire.
Du chemin à faire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste pratiquement que deux minutes. Et Monsieur Diop, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette stratégie puisse marcher?
D'abord, moi, je pense qu'il faut encore insister sur la communication. Mm-hmm. Il faut insister aussi sur le renforcement des capacités. Parce que, comme il l'a dit, il y a encore des lacunes, des incompréhensions, même au niveau de l'État. Donc il faut renforcer la capacité des acteurs, c'est également très important. Et puis aussi, j'insiste sur ce que Aminata a dit, les femmes et les jeunes, c'est la majorité de la population, quoi que l'on dise, donc leur implication est primordiale. Et puis, ne laissez personne à côté, même les personnes handicapées, parce qu'elles aussi, elles ont, faut pas les voir comme ça, elles peuvent aussi jouer un rôle assez important à ce niveau. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura mis tout cela en œuvre, rien n'empêche à la réforme de pouvoir prendre corps comme il faut.
Vous êtes d'accord, M. Dial, qu'il faut l'implication de tous pour la réussite de cette réforme?
Absolument, absolument. Et aujourd'hui, je suis là, je représente l'Alliance citoyenne d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, une organisation de la société civile que l'État a permis. Nous avons fait une évaluation de la stratégie nationale, ce qui avant n'était même pas pensable. Mais là, nous l'avons fait. Nous avons fait un rapport que nous avons remis au commissariat. Et le commissariat aussi, avant décembre, ils vont aussi faire une évaluation par un bureau aussi externe. Donc, tout ça, ce sont des actions qui vont leur permettre de comprendre les gaps, là où ils doivent beaucoup plus agir. Et voilà, donc le fait même que les communautés participent déjà, la société civile participe déjà à l'élaboration des stratégies, à l'évaluation, c'est un grand pas à saluer. Et j'exhorte l'État à aller dans ce sens et les communautés à suivre, les femmes et les jeunes notamment.
Ok, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce débat. Le thème portait sur les réformes, gouvernance du secteur de la sécurité, les enjeux et défis de la mise en œuvre. Nos invités étaient Aminata Agali Yatara, elle est observatrice, Dr Ilo Alaï Dial, il est analyste sécuritaire, il a plusieurs autres casquettes qu'il a notamment aussi mentionnées sur ce plateau. Massiré Diop est membre du réseau média de DICAF. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu l'honneur et le privilège de vous présenter cette émission. La partie technique était gérée par Mamadou Ouattara et Adjala Toutraoré. Merci et à la prochaine.
Merci.